Qu'est-ce qu'une hallucination ? Est-ce différent du délire, des illusions ? S'agit-il d'un trouble psychotique ? Y a-t-il différents types d'hallucinations ? Doit-on les traiter ? Et que faire des entendeurs de voix ? Vous l'aurez compris, le sujet de cet épisode de Psyché est « Vous entendez des voix, c'est normal, les hallucinations ». Vous écoutez le podcast Psyché à tête ouverte. Psyché, car nous tentons de comprendre ensemble les forces qui nous animent. À tête ouverte, car nous le faisons avec l'esprit ouvert au moyen des connaissances actuelles. Bref, Psyché, c'est le seul podcast qui traite avec sérieux et légèreté de la santé mentale. Pierre Oswald, en vous souhaitant le bonjour.
Bonjour Alban.
Comment va la petite santé ?
Écoutez, ça se maintient, et vous ?
Moi, ça va. On ne se plaint pas. Pierre, avant de commencer, vous devez manger un crayon de couleur. De quelle couleur et pourquoi ?
Ça, c'est vraiment une des pires questions que j'ai entendues. Je vais manger un crayon... un crayon rouge, tiens.
Et pourquoi ?
Parce que je suis daltonien.
Ben voilà, merci Pierre. Pierre, pourquoi parler aujourd'hui des hallucinations ?
Bien, c'est un petit peu dans le décours d'un certain nombre d'épisodes que nous avons animés ensemble, si vous vous souvenez bien, qui essayent un peu d'investiguer ce que nous on appelle des symptômes, qui sont en fait des signes ou des observations qu'on vit chez certains de nos patients. Et puis alors, bon, au-delà de l'intérêt d'expliquer un petit peu notre métier, notre popote, c'est peut-être de se poser toujours cette même question, de se dire, mais finalement, ces signes, et ici en l'occurrence les hallucinations, est-ce que c'est vraiment quelque chose de pathologique ? Est-ce que c'est ça qui fait souffrir les gens ? Est-ce que ce qui semble pour nous être de l'ordre de la maladie, de l'irréel, est-ce que c'est vraiment ça qu'il faut viser quand on traite un patient ? Et on va essayer de s'interroger un petit peu sur la fonction et le sens que peuvent prendre ces hallucinations, c'est chez un certain nombre peut-être des gens que nous soignons, mais aussi plus largement dans la population générale.
Bah Pierre, on en a ri tout à l'heure, mais voilà, vous et moi, on est daltoniens. Peut-être que du point de vue de quelqu'un d'autre, quand on va voir un objet d'une couleur donnée, est-ce qu'on est dans une forme d'hallucination ou rien à voir ?
Ah, bah c'est une bonne manière de rentrer dans le podcast. Je ne m'y attendais pas, mais on parlera plutôt d'une illusion. Alors, une illusion, c'est un peu une déformation de la réalité. Et il se fait que depuis à peu près une centaine d'années, dans la manière qu'ont eu les psychiatres et les grands psychiatres français du début du XXe siècle, de séparer ce qu'est une illusion, c'est-à-dire que des gens comme vous et moi, particulièrement sains psychiquement, on peut avoir des illusions, c'est-à-dire qu'on peut avoir un sentiment que la réalité est quelque peu déformée dans certaines situations, certains environnements, ou bien parce qu'en effet, on est daltonien. Si les illusions peuvent toucher à peu près tout le monde, eh bien, les hallucinations ne touchent que les personnes malades, et plutôt les personnes qui sont dans la sphère qu'on appellerait plutôt psychotique, c'est-à-dire qui présenteraient plutôt des troubles délirants, une schizophrénie. Et cette scission entre illusion et hallucination a perduré pendant pas mal de décennies. C'est vraiment remis en question actuellement, puisqu'on est vraiment dans une optique que nous, on appelle dimensionnelle, c'est-à-dire que ces phénomènes qui peuvent paraître très bizarres, en fait, peuvent exister chez pas mal de gens sous une forme quelque peu limitée. Et puis, petit à petit, dans une forme de continuum, peuvent à certains égards toucher la personne dans tous les aspects de sa vie, la faire souffrir. Mais ce que je voudrais dire, c'est que comme il y a ce continuum, il faut avoir un point de vue vis-à-vis de ces hallucinations qui n'est pas que de considérer ça comme des éléments qu'il faut faire disparaître, mais aussi qu'il faut accompagner la personne dans le fait de lui donner peut-être un sens qui va non seulement lui permettre de vivre avec, comme on dit, mais aussi peut-être d'être un élément déclencheur d'autres phénomènes que on va peut-être aborder, qui est l'ordre du rétablissement et peut-être d'une meilleure connaissance de soi.
Vous vouliez qu'on parle tout à l'heure des entendeurs de voix et je suis vraiment impatient de comprendre de quoi il s'agit. Mais donc, voilà, l'hallucination, allons-y maintenant, on perçoit quelque chose alors qu'en réalité, cette chose n'existe pas, il n'y a pas de composante sensorielle derrière, on est sur quelque chose comme ça.
Oui, c'est tout à fait ça. Peut-être que il faut, pour bien comprendre ce qu'est une hallucination, d'abord la différencier de ce qu'on appelle le délire. On en a parlé lors d'un précédent épisode et que je ne peux que conseiller de réécouter.
Vous avez été très très bon.
Hein, ah oui, c'est un de mes meilleurs, celui-là. Et un des vôtres aussi.
Il paraît que quand vous faites des spectacles et qu'il y a un bis, c'est celui-là que vous voulez faire.
On prend le délire, ça marche toujours bien. Non, une hallucination diffère du délire. Le délire, c'est une idéation, c'est une idée qui n'a pas de véracité et qui est perçue par la personne comme quelque chose d'inattaquable. Donc, c'est vraiment une idée.
On avait parlé de la paranoïa, par exemple, et voilà, le complotisme et ce genre de mécanisme-là.
Tout à fait, tout à fait.
C'est le délire.
Des idées qui sont défendues, bec et ongles par la personne et qui est convaincue de leur réalité. Une hallucination, ce n'est pas une idée, c'est une perception. Et donc là, on peut reprendre les cinq sens qu'on a et se dire que chacun de ces sens peut être l'origine d'une hallucination. On est vraiment dans quelque chose de très différent entre le délire qui est donc une idée qui n'a pas de fondement réel et une hallucination qui est donc, comme vous l'avez dit, une perception qui n'a pas de réel objet. Autrement dit, on ressent quelque chose, on voit quelque chose, on entend quelque chose, on sent quelque chose, alors qu'il n'y a pas de réel composant sensoriel qui nous permet de pouvoir indiquer que c'est une certaine réalité.
Allez, on va se promener peut-être dans les cinq sens, justement. Hallucination visuelle, ça paraît assez simple, on voit quelque chose qui n'est pas là.
Alors oui, effectivement, alors, les hallucinations visuelles, c'est voir quelque chose qui, a priori, n'existe pas.
Un exemple, Pierre.
Alors, je vais peut-être prendre un exemple qui va m'amener à bien insister sur le fait qu'une hallucination, ce n'est pas uniquement dans la psychose, dans la schizophrénie. Je parlais des éléphants roses. Mm-hmm. C'est une personne qui souffre d'un sevrage d'alcool. Comme vous le savez, une personne qui consomme habituellement beaucoup d'alcool, qui l'arrête du jour au lendemain pour l'une ou l'autre raison, peut souffrir de ce qu'on appelle un sevrage. Et historiquement, on appelait ça un delirium tremens.
Alors que ce n'est pas un délire.
Effectivement.
J'ai retenu la leçon.
Ah, bravo, voilà. Ah, donc, ce delirium tremens, on en a parlé effectivement pour bien insister sur le fait que ce n'était pas un délire, se manifeste entre autres par des hallucinations visuelles. Et l'une d'entre elles, un peu folkloriquement, on parle des éléphants roses. Pourquoi ? Parce que les personnes qui sont en sevrage d'alcool, tout comme dans un certain nombre d'autres troubles neurologiques, dans certaines formes de démence, ont une production d'hallucinations visuelles qui est très importante et qui peut parfois exercer sur eux une fonction très délétère, très douloureuse, parce qu'on se dit « je suis agressé par des animaux, on m'en veut », donc avec des hallucinations qui sont très, très fortement perçues comme pour eux une certaine forme de réalité.
La scène du bébé qui marche au plafond dans Trainspotting aussi.
Oui, quelle bonne,
référence.
Bonne référence.
Donc, hallucination, on a du visuel, de l'auditif. Là, on pense à entendre des voix. Mais on en parlera tout à l'heure, j'imagine. Mais
on peut en parler tout de suite, des voix.
Allez, allons-y.
Alors, les hallucinations auditives, c'est effectivement principalement les voix. Et lorsqu'on est, alors ça, c'est un des petits éléments de notre travail, lorsqu'on fait ce qu'on appelle un examen mental, on ne va pas s'arrêter uniquement à poser la question de la personne, est-ce que vous entendez des voix ? On va s'intéresser à toute une série d'aspects, de savoir de quel type de voix il s'agit, est-ce que c'est des voix connues, inconnues, quelle est la tonalité de ces voix, est-ce qu'elles sont envahissantes, est-ce que la personne peut les contrôler ? Il arrive parfois que certaines personnes ressentent ces voix de manière tellement intense que ça les empêche d'entendre autre chose, une conversation que cette personne pourrait avoir dans la vie réelle est totalement perturbée par ses voix. Et c'est ce qu'on appelle, nous, dans notre petit jargon, des attitudes d'écoute. On a devant nous quelqu'un avec qui on aimerait entamer une discussion et on la sent comme si elle était au téléphone avec quelqu'un d'autre, alors qu'il n'y a pas de téléphone. Alors donc, ça, c'est des choses, des questions qu'on pose. Et puis alors, un élément très important par rapport aux voix, c'est de percevoir si ces voix sont plutôt perçues comme positives ou perçues comme négatives. Alors évidemment, dans notre métier, on a plutôt tendance à être confronté à des personnes, lorsqu'elles se plaignent, ce sera plutôt de voix négatives, des voix qui leur disent « t'es nul, tu ne vaux rien » ou qui leur proposent ou qui leur imposent de commettre parfois des actes répréhensibles, violents, délictueux ou autres. Et ça, c'est perçu, alors évidemment, par la personne comme quelque chose d'éminemment agressif. Et on ne peut qu'imaginer que Voilà, lorsqu'on a en soi une voix qui nous répète inlassablement des choses très péjoratives, ça fait vraiment énormément souffrir. Les voix peuvent prendre de multiples facettes et c'est à nous aussi d'essayer d'investiguer plus en détail ces caractéristiques.
On est bien d'accord qu'on n'est pas dans, entre guillemets, le monologue intérieur où on a tous en nous des petites voix qui disent « Ah, oh, t'es encore en retard, qu'est-ce que t'as fichu, tu t'y es mal pris » ou à l'inverse « Ah, j'ai bien fait ça, je suis vraiment très content ». C'est pas de ça dont il s'agit.
C'est pas de ça dont il s'agit, mais c'est une très bonne remarque encore une fois, parce que des chercheurs se sont intéressés aux mécanismes biologiques et neurobiologiques de ces hallucinations. Une des hypothèses, et qui est encore cours aujourd'hui, c'est de se dire que cette réflexion intérieure, ce dialogue intérieur, peut, chez certaines personnes, fragilisées par toute une série peut-être d'expériences difficiles, ou bien parce que dans leur cerveau, certaines connexions ne se font pas bien, ce dialogue intérieur est perçu par la personne comme un dialogue réel. Nous, on arrive à faire, à se décaler de ça, ces personnes n'y arrivent pas. C'est exactement la même chose que quand on va au cinéma, on a cette capacité de nous mettre à distance de l'écran, certaines personnes, parce qu'elles ont des fragilités ou des difficultés, se sentent dans le film. C'est un peu la même chose que ces hallucinations liées à ce dialogue intérieur.
Allez, on continue à se promener dans les sens. On peut avoir des hallucinations gustatives.
C'est assez rare, il faut le reconnaître. On voit ça dans certaines psychoses, mais aussi dans certaines formes de démence. Ce qui est peut-être un petit peu plus fréquent, ce sont les hallucinations olfactives. Et j'ai en tête un patient qui... me décrivait comme ça dans une pièce, docteur, je sens vraiment des odeurs plus que nauséabondes, alors que je ne sais pas enrhumé, moi je
pas
ressens... Non, c'était pas moi. Chez cette personne, c'était vraiment perçu comme étant le début d'une phase associant hallucination et délire. C'était comme le début de quelque chose qui allait mal. Et donc, cette hallucination olfactive était le signal que quelque chose allait moins bien. Il faut reconnaître que la plupart du temps, les hallucinations olfactives, c'est plutôt nauséabond. Hein. On ne sent pas
la pâquerette.
La pâquerette la grenadine. C'est vraiment plutôt des hallucinations nauséabondes. Et ça s'est exprimé alors par les patients, souvent, alors parfois avec des mécanismes de compensation, on utilise des déodorants, des choses comme ça. Ce sont parfois par là qu'on peut rentrer aussi dans le vécu et dans la souffrance du patient.
Et du côté tactile, alors ?
Alors, du côté tactile, il y a plusieurs types d'hallucinations qui peuvent être épidermiques, hypodermiques. Mais je citerai peut-être quelque chose qu'on voit assez fréquemment, c'est ce sentiment, cette sensation, cette perception qu'ont certains patients d'avoir des petites bébêtes qui parcourent les mains, les bras, le bras...
Les lézards, comme ça.
Oui, oui. Ouais. Tout à fait, oui, c'est terrible d'être confronté à ce sentiment, non seulement d'intrusion, de douleur, et parfois et souvent à l'incompréhension de son interlocuteur. Et il y a un syndrome, il y a le syndrome d'Egbom. Le syndrome d'Egbom, c'est une zoopathie, c'est-à-dire une hallucination liée à des animaux, et on dit qu'elle est cutanée aux muqueuses, puisqu'elle touche la peau, les muqueuses, avec cette impression que des insectes, bien souvent, parcourent le corps et parfois rentrent dans le corps. Il y a toute une dimension un petit peu culturelle aussi. Il y a des films là-dessus. Il y a un magnifique film de William Friedkin qui s'appelle Bug, qui évoque ce syndrome-là. Mais peu importe, ce qui est quand même assez particulier dans ce type de situation, c'est le côté particulièrement anxiogène qu'on peut vivre si on a l'impression comme ça que des petites bébêtes vous parcourent le corps, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur.
Vous dites, parfois, ça peut même mettre des sensations à l'intérieur du corps.
Oui, alors c'est ce qu'on appelle les hallucinations synesthésiques, en particulier dans certaines formes de dépression très très sévères. On a parlé, je pense, des syndromes mélancoliques où certaines personnes ressentent comme si elles pourrissaient de l'intérieur, comme si parfois elles étaient mangées de l'intérieur. Ce sont des hallucinations synesthésiques. C'est souvent la manifestation vraiment de douleur psychique intense et qu'il faut le plus possible évidemment prendre en charge par des techniques parfois assez lourdes.
Ouais, là qu'on en vient finalement à ce que vous nous dites assez régulièrement. Ce qui est intéressant, c'est de voir s'il y a une souffrance qui est présente. Et quand c'est le cas, qu'est-ce qu'on fait ? On peut traiter les hallucinations ? On traite la cause ? Qu'est-ce qu'on fait exactement ?
Alors, il y a tout un travail à faire. J'ai évoqué très rapidement certaines questions qu'il faut poser, certaines techniques qu'on peut utiliser pour essayer le plus possible de recueillir cette information. L'important, après, est de voir quelle place prennent ces hallucinations dans la vie de la personne. Ça, c'est un élément essentiel. Et on le répète souvent dans nos podcasts, ce n'est pas le soignant, ce n'est pas le psychiatre, ici en l'occurrence, qui fera un examen mental, qui va décréter que l'hallucination est d'office pathologique. Et c'est dans vraiment le colloque singulier, comme on dit un peu de manière pompeuse, mais dans la discussion, dans quasiment la négociation qu'on aura avec la personne soignée, de voir si d'abord c'est quelque chose qui est douloureux, et ensuite, et c'est peut-être ça qui va nous permettre peut-être de parler de ces fameux entendeurs de voix, c'est de voir quel sens on peut donner aussi aux hallucinations. Pourquoi je dis ça ? Parce que ça peut paraître évident qu'il faut essayer de mettre du sens sur les phénomènes qu'on vit parfois au quotidien et qui peuvent être douloureux. Il y a quelque chose qui s'est passé il y a quand même 50 ans, maintenant 60 ans, ou même maintenant un petit peu plus, c'est qu'on a découvert des médicaments, des antipsychotiques, on les appelait à l'époque des neuroleptiques, qui ont réussi à limiter toute une série de symptômes qu'on retrouvait dans la schizophrénie, et en particulier les hallucinations. Les neuroleptiques et les antipsychotiques qu'on utilise actuellement fonctionnent relativement bien sur ce type de signes et de symptômes. Et donc, satisfait qu'on était d'avoir enfin trouvé un traitement pour aider ces patients.
Vous étiez déjà là, hein, il y a 70 ans, quand on les a découverts, je
pense. Bien sûr, c'est moi qui les ai découverts. et ces médicaments, évidemment, on a tendance à les utiliser de manière quelque peu... pas abusive évidemment, mais en tout cas à les utiliser assez fréquemment parce qu'ils peuvent traiter assez rapidement les symptômes qu'on appelle positifs, c'est-à-dire qui existent spécifiquement dans ces pathologies psychotiques. Et donc, on les utilise pour limiter le délire, pour réduire les hallucinations. Et donc, on a parfois un petit peu ce réflexe de dire « Ah, hallucination, donc médicament ». Je pense, et c'est la leçon aussi que nous enseignent les patients, que nous enseignent leurs familles, que nous enseignent aussi certains, un groupe qui leur présente, c'est de dire, oula, attention, c'est peut-être quelque chose qui est assez spécifique des maladies que vous traitez, mais attention, les hallucinations, elles veulent dire quelque chose dans la vie de la personne. Et ces hallucinations, rendez-vous compte qu'elles ne touchent pas uniquement les patients que vous traitez. Et c'est vrai parce que pas mal d'études montrent que 5 à 10, 15, 20% des personnes, quel que soit leur statut psychiatrique, auraient des hallucinations. On parlait au début de cette différence entre les illusions et les hallucinations. Je pense qu'il faut remettre un peu en question cette frontière, puisque les hallucinations ne concerneraient pas uniquement nos patients dits psychiatriques, mais toucheraient peut-être un petit peu tout le monde. Là aussi, pas de manière, comme je l'ai dit tout à l'heure, à occuper toute la vie de la personne, mais parfois comme étant, et comme vous l'avez souligné, représentant un petit peu ce dialogue intérieur qui est peut-être plus intense chez certaines personnes, qui les empêche de les mettre à distance, mais qui peut avoir un véritable sens. Donc plutôt que de mettre le couvercle là-dessus avec certains médicaments, c'est plutôt d'entamer un travail de psychothérapie. Il existe un certain nombre de psychothérapies des hallucinations qui n'ont pas comme vocation de les faire disparaître, mais soit en effet de les calmer, de les apaiser, et puis aussi, et c'est là vraiment le plus important, c'est de leur donner un sens.
Là, je vous vois venir avec ce phénomène dont vous vouliez absolument parler, qui sont les entendeurs de voix.
Oui, alors moi aussi, j'avais un petit peu ces entendeurs de voix, je me suis dit, mais enfin, qu'est-ce que c'est que ça ? Nos patients commencent à dire que leurs symptômes ne seraient peut-être pas des symptômes, et en fait, en s'intéressant à ce qui a été créé il y a pas mal de temps, maintenant aux Pays-Bas. Donc, c'est Hearing Voice Movement, qui maintenant sont de plus en plus utilisés dans la plupart des pays du monde. Mais en fait, l'idée derrière ça, c'est de pouvoir déstigmatiser ce phénomène des hallucinations. Alors, pas déstigmatiser, pour faire comme on le fait tous, c'est normal aussi, déstigmatiser la maladie mentale. Certes, c'est quelque chose qu'il faut faire, mais c'est aussi pour dire finalement deux choses. La première, c'est que ces hallucinations qu'on considère comme étant des symptômes, donc quelque chose qu'il faut essayer de réprimer, de supprimer, eh bien, c'est peut-être un outil intéressant dans la thérapie. Je prends un exemple, quand on a des voix qui nous disent qu'on est le plus grand, le plus beau, le plus fort, mais ce de manière un petit peu excessive, parfois un peu drôle.
C'est qu'à cet audio que vous écoutez pendant la nuit, pendant votre sommeil.
Oui, ça, c'est le développement personnel, ce qui me permet le matin de me lever en pleine forme. Non, c'est pas ça, c'est sur des voix qui sont parfois totalement, non seulement diverses, mais chaotiques et qui sont parfois très embêtantes dans la vie de la personne. Eh bien, elles ont peut-être un sens, quoi. Ça veut peut-être dire que la personne veut tenter de faire quelque chose pour les autres, mais que parce qu'elle a des difficultés de concentration, des difficultés d'attention, eh bien, elle ne peut pas le faire. C'est un exemple un petit peu rapide, mais c'est quelque chose qui veut dire que le sens qu'on peut donner aux hallucinations permet de ne pas les réprimer. Et puis la deuxième chose, c'est au-delà du sens, c'est la fonction des hallucinations. Lorsqu'on arrive à petit mieux les comprendre, à leur donner du sens, eh bien, dans ce que nous disent les entendeurs de voix, lorsqu'ils se réunissent, lorsqu'ils en parlent, c'est de dire, ben, je peux, au travers de ces voix-là, trouver une manière de me construire en tant qu'individu. Pourquoi ? Parce que j'ai une sorte de dialogue intérieur, pour revenir à ce que vous disiez, et ça leur permet réellement, non seulement de mieux vivre avec, mais aussi de leur donner une fonction, comme une sorte, et ça peut faire sourire, mais de compagnon du quotidien. Et finalement, ça revient à ce qu'on dit depuis maintenant pas mal de mois, c'est finalement qu'est-ce qu'on cherche quand on a un trouble de santé mentale ? Est-ce qu'on vise à réprimer certains symptômes ? Certes, quand ils sont très douloureux, il est évident qu'on n'a pas envie de les subir. Mais par contre, un certain nombre de phénomènes, parfois délirants, parfois hallucinatoires, sont aussi constitutifs de ce qu'on est. Et que finalement, dans l'objectif qu'on s'est fixé, qui est de vivre avec un peu ce qu'on est, et parfois même les utiliser comme étant des leviers d'amélioration, c'est tout le processus de rétablissement qu'on avait déjà évoqué, eh bien, ces hallucinations, lorsqu'elles sont contrôlées efficacement, peuvent participer de la construction de l'individu et de sa capacité à mieux affronter les difficultés du quotidien. C'est pour ça que je tenais en effet à parler des entendeurs de voix, parce qu'ils nous donnent finalement une très très bonne leçon. Ils nous disent, attention, les hallucinations, ce n'est pas d'office un symptôme, c'est plutôt votre perception, c'est le cas de lire, qui est de considérer ça. Et puis, c'est d'utiliser finalement tous les matériaux que peut-être on considère de manière excessive comme étant pathologiques, pour pouvoir mieux comprendre la personne, mieux se comprendre, donner du sens à sa vie et mieux fonctionner au quotidien. Donc, c'est de dire qu'il y a peut-être possibilité, au travers des hallucinations, de se construire mieux, de se construire bien.
Merci pour ce changement de perspective tout à fait salutaire qui ne me surprend absolument pas venant de vous, Pierre. Et nous arrivons déjà au terme de cet épisode. Comme il est tradition dans Psyché, Pierre, auriez-vous trois ouvrages ou créations artistiques à conseiller à nos auditeurices qui souhaiteraient approfondir le sujet du jour ?
Oui, alors j'ai pensé à deux livres. J'en aurai que deux aujourd'hui. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Alors, il y a un bouquin un peu plus technique, un peu comme je le fais d'habitude. C'est « La psychothérapie des hallucinations ». Alors, c'est un livre qui est sorti il y a quelques années maintenant de Renaud Jordan, de Jérôme Favreau. Et ce bouquin est vachement intéressant parce qu'il sort un peu de cette dualité que j'ai abordée un peu rapidement, qui est soit on laisse les hallucinations comme telles, soit on les réprime avec des médicaments, mais qui essaie de trouver une troisième voie pour, comme je le disais également, d'utiliser les hallucinations comme étant un outil au service du mieux-être de la personne. Et qui nous donne aussi pas mal d'outils de réflexion et d'outils, je dirais, assez stratégiques pour, évidemment, dans un certain nombre de cas, ces hallucinations sont douloureuses, pour pouvoir mieux les contrôler, mieux les cadenasser à certains égards au travers des dernières théories cognitives sur qu'est-ce qui se passe dans le cerveau de quelqu'un qui est halluciné. Donc, comment est-ce qu'on peut mieux gérer ces phénomènes-là ? Et puis, mettons de côté l'aspect scientifique. Il y a un bouquin que j'adore, qui est un bouquin d'un auteur belge, Jean Rey, qui s'appelle Malpertuis, que je pense toute notre génération a lu.
Oui, on a été obligé.
On a été obligé. Et qui fait partie de ce courant fantastique belge où, qui, finalement, quand on lit ça en tant que soignant, et je l'ai relu encore récemment, eh bien, finalement, c'est une vaste entreprise d'hallucinations collectives avec. Là aussi, un intérêt très marqué sur que disent les hallucinations de ceux qui les vivent. C'est un bouquin extraordinaire, fantastique, et qui touche à la fois au surréalisme et finalement au fantastique qui s'est après épanoui dans le cinéma. C'est à lire absolument.
De toute façon, vous aviez cité tout à l'heure Bugs de William Friedkin.
Oui, voilà le troisième choix.
On en a trois, tout va bien. Je signale aux auditoristes qu'ils trouveront une bibliographie non exhaustive dans le descriptif de l'épisode de ce jour. Pierre, avant de nous quitter, pourriez-vous lever un coin du voile sur notre prochain épisode ?
Alors, la prochaine fois, on parlera avec un invité, encore une fois, de père aidance. Alors, la père aidance se développe énormément dans nos institutions, mais aussi au-delà. Elle vient signer aussi le fait que, enfin, maintenant, les problèmes de santé mentale, ce n'est pas l'affaire que de soignants et de professionnels, mais aussi de personnes qui sont aussi passées par la maladie et qui amènent leur savoir expérientiel au bénéfice des personnes soignées.
Mais le rendez-vous est pris. Merci à toutes et tous pour votre écoute. Et n'oubliez pas, envers et contre tout, gardez la tête ouverte.
Chères auditrices et auditeurs, c'est la fin de cet épisode de Psyché à tête ouverte. Il a été réalisé par l'agence Benvox. Si vous avez aimé, vous pouvez liker et partager. Vous pouvez aussi nous envoyer vos propositions de thèmes à l'adresse info@psyche.be.